Le journal François-Xavier de Calonne. Le droit à l'hébergement pour les enfants n'est pas appliqué, c'est ce que déplore le collectif Jamais sans toi. Le nombre d'enfants sans abri a quasiment doublé en un an. Anne-Sophie Huchard, enseignante et membre de ce collectif, sera l'une de nos invitées. 6 personnes se sont noyées lors du naufrage d'un bateau en provenance du Liban. Les candidats à l'exil tentaient de rejoindre l'Italie. Comment limiter la pénurie et la flambée des prix de l'énergie cet hiver? La présidente de la Commission européenne a présenté des mesures d'urgence pour répondre à la crise énergétique. Le logement représente un tiers du budget des ménages. Nous y reviendrons avec Amine Saha, élu indépendant à la Courneuve, vice-président de l'Association des élus de France. Il était l'invité de Pluriel hier soir, extrait dans votre édition. Les associations tirent la sonnette d'alarme et appellent à la mobilisation face à l'augmentation du nombre d'enfants sans abri en France. Le collectif Jamais sans toit participe régulièrement aux occupations des écoles pour héberger des élèves à la rue et leurs familles. Collectif qui, avec la FCPE et le collectif des associations unies, a lancé un réseau national d'aide aux enfants sans toit. Anne-Sophie Huchard, enseignante et membre du collectif Jamais sans toit, entretien.
Concernant les élèves sans abri, donc il y avait eu le baromètre de l'UNICEF et de la Fédération des acteurs de la solidarité qui est sorti le 1er septembre et qui montre une augmentation là, du nombre d'élèves sans toit, c'est-à-dire non seulement sans toit, mais ouais, qui ont appelé le 115 et qui n'ont pas eu de réponse, donc qui ont dormi à la rue, une augmentation de plus de 80% entre le mois de janvier 2022 et le mois d'août 2022. Donc en 6 mois, une augmentation de plus de 80% du nombre d'enfants sans solution apportés par le 115. Donc on voit que la situation, elle se dégrade vraiment fortement. Au niveau de la réalité du terrain, nous à Lyon, là, à la rentrée, on a de nombreuses situations qui remontent et on voit qu'en effet, le droit à l'hébergement pour les enfants n'est pas appliqué.
Et que demandez-vous? L'application, bien entendu, de ce droit, mais comment cela doit se réaliser?
Ouvrir des places d'urgence et puis aussi, bien sûr, réfléchir d'une manière générale à la politique du logement en France, puisque si l'hébergement d'urgence est saturé, c'est aussi parce que les familles n'accèdent pas au logement social ou au logement très social pour différentes raisons, pour des raisons de papier. Il y a des familles qui sont en attente de régularisation et qui ne peuvent pas accéder à un logement. Donc nous, on demande la régularisation des personnes pour qu'elles puissent accéder au travail et au logement, et aussi désengorger l'hébergement d'urgence. Ça, c'est une première solution. Et puis, tant que ce n'est pas mis en place et tant que le logement reste inaccessible pour les familles, il faut des places d'hébergement. On ne peut pas se contenter de dire c'est compliqué, ça coûte cher, on ne va pas le faire. Non, c'est la Convention internationale du droit des enfants. Les enfants ont droit à un abri. On ne peut pas grandir en étant à la rue. En France, en 2022, ça semble ahurissant. Le nombre d'enfants qui sont contraints de passer la nuit dehors parce qu'on n'a pas mis les moyens d'hébergement, de place d'hébergement. Et on demande aussi que les solutions d'hébergement qui sont apportées pour les enfants soient adaptées à une vie de famille. Les réponses qui sont apportées généralement, le plus souvent, c'est des places de nuitée d'hôtel. Enfin, vivre à l'hôtel pour un enfant, ça veut dire des difficultés pour l'alimentation parce qu'on ne peut pas se faire à manger, ça veut dire vivre dans une grande promiscuité, dans une seule chambre avec toute la famille, ça veut dire aussi être loin de l'école, des trajets qui sont très, très fatigants. On sait que c'est très coûteux pour l'État, cette politique de nuitée d'hôtel, ça coûte très cher et c'est pas adapté pour le développement des enfants. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir et à mettre en place pour améliorer à la fois le nombre de places et la qualité des places qu'on propose aux familles.
Vous êtes à Lyon. Quelle est la marge de manœuvre de la municipalité sur cette situation?
L'hébergement et le logement, c'est la prérogative de l'État. Donc c'est la préfecture qui est en charge d'héberger les familles. Donc via le 115, à Lyon, c'est la maison de la ville sociale qui oriente les familles. Que la municipalité, elle a lancé à Lyon le plan Zéro Enfant à la rue, ce qu'elle a c'est de voter, de mettre à disposition des immeubles vacants ou qui sont en attente de changement d'usage, de les mettre à disposition de la préfecture pour ouvrir des places d'hébergement. Donc ça permet de partager le coût, on va dire, puisque le foncier est mis à disposition par la ville et c'est l'État qui paye tout ce qui est l'encadrement logistique de la vie quotidienne sur un foyer d'hébergement. Ça, les villes ont la main là-dessus sur le foncier, le bâti dont elles sont propriétaires. Elles peuvent jouer là-dessus. Après, la ville de Lyon a aussi mis des familles à l'abri à l'hôtel en attendant que l'État prenne le relais. Donc ça, c'est quelque chose que les villes peuvent faire. Les villes, en fait, elles ont quand même des compétences très larges. Elles peuvent faire beaucoup de choses. Après, les villes, ce qu'elles demandent, c'est que l'État prenne en charge ce qui est la compétence. Voilà, c'est sa compétence. Donc les villes, elles ne veulent pas faire plus que ce qu'elles ont à faire, entre guillemets. Donc voilà, c'est aussi une question de justice sur le territoire, hein, d'équité. L'État doit la même chose à toutes les personnes en France. Et on ne peut pas se contenter de dire « Ah bah, à tel endroit, c'est super, la mairie est de bonne volonté, et puis à tel autre, non. » L'État doit vraiment intervenir pour que partout, sur tout le territoire, il y ait des moyens pour l'hébergement d'urgence quand les familles sont à la rue, et puis après réfléchir aussi au logement d'une manière générale et au logement social.
Et votre collectif Jamais sans toit est à l'initiative d'un réseau national d'aide aux élèves sans-abri. Est-ce que vous pouvez nous faire part de l'objectif de ce réseau, dont fait partie également la FCPE ou encore le collectif des associations unies?
L'objectif, c'est de se coordonner, hein, de pouvoir unir nos forces, hein, on va dire, sur le terrain. L'idée, c'est aussi de visibiliser cette situation, hein, de s'appuyer sur ces grosses associations que sont le CAU, c'est un collectif de 39 associations, dont la Fondation Abbé Pierre. La FCPE, c'est une fédération de parents d'élèves qui est vraiment implantée partout en France. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur ce maillage pour essaimer les mobilisations citoyennes, hein, comme nous, on a fait à Lyon, de se mobiliser dans les écoles, les équipes enseignantes et les parents d'élèves, pour dire que c'est pas une fatalité, hein, les enfants à la rue, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, hein, puisque dans la loi, toute personne a droit à un hébergement d'urgence, et toute personne en détresse qui le demande doit être hébergée. Donc a fortiori, les familles et les enfants sont largement, on va dire, il n'y a pas de priorité, hein, puisque c'est valable pour tout le monde, mais c'est vrai que les enfants à la rue, c'est quelque chose qui touche. Quand au quotidien on est enseignant et que dans sa classe on a un élève qui rentre et qui n'a pas de maison, donc qui va dormir dehors, ça touche particulièrement et on ne peut pas rester insensible. Donc c'est vrai que c'est des leviers de mobilisation, les parents d'élèves et les enseignants, pour visibiliser cette situation, interpeller les autorités pour qu'une politique réelle d'hébergement se mette en place. Donc ce qui se passe, c'est que nous, quand on occupe les écoles, on met à l'abri les familles, mais surtout, on médiatise la situation et les politiques se saisissent de cette question, alors que c'est vrai que sinon, c'est une question qui peut rester complètement invisible. Donc l'objectif de ce réseau, c'est vraiment de pouvoir mettre sur la place publique la question des enfants sans toit et de dire aux politiques de mettre en œuvre une vraie politique, des moyens, que ce soit le nombre de places et la qualité des places qu'on offre pour les enfants.
Et cela concerne combien d'élèves aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise ?
Là, depuis la rentrée, les situations qui nous sont remontées, c'est les situations de 25 familles sur la métropole de Lyon. 25 familles qui sont à la rue, donc ça représente 67 enfants. Ça, c'est des situations que nous, on connaît, hein, qu'on a recensé à Jamais sans toit. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses situations qui restent inconnues, soit parce que les enfants ne sont pas scolarisés, soit parce que les établissements n'ont pas repéré que les enfants étaient sans abri, soit parce que ça ne s'est pas remonté au niveau de Jamais sans toit. Donc 67 enfants, c'est les situations connues à ce jour après 10 jours d'école.
Anne-Sophie Huchard, enseignante et membre du collectif Jamais sans toi. Un nouveau drame de l'immigration clandestine. 6 personnes, dont des enfants, se sont noyées lors du naufrage d'un bateau en provenance du Liban. Les candidats à l'exil tentaient de rejoindre l'Italie. Le naufrage s'est produit au large des côtes du sud-ouest de la Turquie. Les gardes-côtes ont indiqué qu'un total de 73 migrants répartis sur 4 canaux de sauvetage ont pu être secourus. 2 Palestiniens et un officier israélien ont été tués aujourd'hui lors des de tir. Cela s'est passé dans la région de Jenin, en Cisjordanie occupée. Le président égyptien est arrivé hier au Qatar. Une première visite d'Abdel Fattah al-Sissi depuis le rétablissement en 2021 des relations diplomatiques entre les deux pays. Un rétablissement après 4 ans de rupture. Comment limiter la pénurie et la flambée des prix de l'énergie? L'hiver prochain, la présidente de la Commission européenne a présenté des mesures d'urgence pour répondre à la crise énergétique. C'était lors de son discours sur l'état de l'Union. Parmi les mesures proposées figurent notamment une réforme en profondeur du marché de l'électricité et la création d'une banque publique dédiée à l'hydrogène. Ursula von der Leyen estime par ailleurs que le marché du gaz ne fonctionne plus et que la Russie manipule pour punir l'Europe de son soutien à l'Ukraine. L'invité de Pluriel hier soir était Amine Saha, élu indépendant à La Courneuve, vice-président de l'Association des élus de France. Le logement représente aujourd'hui en moyenne un tiers du budget des ménages. Alors qu'attend-il du nouveau ministre en charge de ce sujet, le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein? Amine Saha.
Alors c'est un sujet qui est très peu abordé, notamment par la classe politique, puisque c'est un sujet très technique, finalement. Donc souvent, d'abord parce que les gens n'y comprennent pas grand-chose, et puis dans l'univers médiatique, ça intéresse finalement très peu, notamment les journalistes. Et donc c'est un sujet qui a souvent tendance à passer un peu à la trappe, mais c'est un sujet extrêmement important, notamment dans les territoires que je connais bien, où on connaît une crise du logement absolument énorme, avec il manque en Seine-Saint-Denis 150 000 logements, on a 150 000 demandeurs de logements en attente, on a un développement de l'habitat indigne qui est absolument exponentiel, on a tout un tas de difficultés comme ça, le taux des impayés aussi qui a explosé à la fois avec la crise mais qui existait déjà depuis un certain nombre d'années, et donc c'est un sujet qu'il va falloir prendre à bras le corps. Je pense que sur le mandat précédent, le gouvernement a manqué à sa tâche. Je le regrette, puisqu'il y a un certain nombre de mesures. On a parlé des APL, ça a été très souvent évoqué. Mais il y a aussi notamment la mise en place de la RLS, la réduction de loyer de solidarité, hein, qui a imputé directement les bailleurs sociaux, notamment en les privant d'un certain nombre de fonds propres qui leur permettaient à la fois de mieux entretenir leur patrimoine, de construire davantage de logements. Et donc, je crois qu'Olivier Klein est assez connaisseur du sujet, puisqu'il est maire d'une ville de Seine-Saint-Denis, qui connaît ces difficultés-là. Il a été par ailleurs président de l'ANRU pendant plusieurs mois. Et donc, je crois qu'il saura défendre le logement social. En tout cas, je l'espère.
Qu'est-ce qui empêche finalement aujourd'hui de construire du logement social? Ce sont des difficultés techniques, des normes, un manque de volonté politique. Qu'est-ce qui l'explique?
Alors il y a plusieurs choses. D'abord, oui, du point de vue de la réglementation, on a une réglementation qui est de plus en plus complexe, qui a rendu difficile la sortie de terre d'un logement. Voilà, qu'il soit social ou non par ailleurs, hein. Les promoteurs connaissent la même difficulté. On a aussi un certain nombre de maires qui sont... Qui parfois font un peu de zèle, il faut le dire, empêchent la construction de logements parce que pour tout un tas de difficultés qui peuvent être légitimes parfois parce qu'il manque d'équipement public et donc il y a aussi un frein de ce côté-là. Mais le premier frein c'est d'abord les moyens des opérateurs et notamment des bailleurs sociaux qui ont été privés de subventions de la région, qui ont été privés de fonds propres par la mise en place d'un certain nombre de règles ces dernières années. Et donc oui, toutes ces mesures ont finalement été un peu contre-productives pour permettre que le logement se développe davantage dans le pays.
Si on construisait davantage, vous avez le sentiment que l'économie française aussi se porterait mieux?
C'est l'une des pistes qui pourrait être empruntée pour permettre une relance de l'économie. On a parlé de tout un secteur des énergies renouvelables qui peut être créateur d'emplois, mais je crois que le logement, et notamment la rénovation des logements, puisque on doit aller vers des logements de basse consommation, mieux isolés, etc., pour permettre notamment de réduire la facture des ménages sur l'énergie. Et donc, tout ce secteur-là, je crois, peut permettre une relance de l'économie si on s'y intéressait plus sérieusement.
Amine Nessa, élu indépendant à La Courneuve, vice-président de l'Association des élus de France. Il était l'invité de Pluriel hier soir, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur radioorient.com. L'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h sera Karim Ziabat, élu à Cergy, en charge de la démocratie participative et de la citoyenneté, ancien candidat aux élections législatives. La Tunisie est l'invité d'honneur de la 12e édition du Salon international du livre de Palestine, un salon qui se tient jusqu'au 24 septembre prochain à Ramallah. 350 maisons d'édition de 16 pays sont au rendez-vous. Après le Salon international du livre de Palestine, la Tunisie sera également à l'honneur au Salon international du livre de Riyad en Arabie Saoudite, salon qui aura lieu du 29 septembre au 8 octobre prochain. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe, une édition présentée par Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 16h30.